Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Tout de suite, quelques infos supplémentaires. La destruction de Gaza par Israël se poursuit, vous l'avez entendu dans le journal de RFI. Du côté des soutiens en France, la mairie de Bordeaux avait été critiquée pour son silence sur cette situation. Eh bien, le maire Pierre Urmic a fait éteindre hier soir la façade de l'hôtel de ville de Bordeaux en soutien aux populations civiles après les frappes sur Rafah. C'est le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a pris en premier cette décision et a invité tous les maires de France à en faire de même. Je rappelle que demain aura lieu également un rassemblement de soutien à Abdourahmane Ridouane, président et imam de la mosquée de Pessac, qui est menacé d'expulsion par la préfecture, alors qu'il participe activement au rassemblement hebdomadaire de soutien à la Palestine. Rassemblement organisé par le comité Action Palestine, Abdourahmane Ridouane est accusé par la préfecture de tenir, je cite, un discours de glorification de cette organisation terroriste, le Hamas, qui se serait intensifié, encourageant et légitimant son action. Fin de citation. Le rassemblement, c'est donc demain à 14h devant le tribunal à Bordeaux. La Poste, elle, ferme encore des bureaux après la suppression de ceux de la gare Saint-Jean, de la rue Judaïque et de la barrière de Pessac. C'est maintenant celui de Gambetta qui fermera dès le mois de novembre prochain et après 24 ans d'ouverture. Des discussions sont aussi en cours concernant le bureau de poste de Villeneuve-d'Ornon dans le quartier de Chambéry. Tandis qu'à la Benauge, ce sont les horaires d'ouverture qui seront désormais limités à 2h15 seulement par jour, de 14h à 16h15, ainsi que le samedi matin. Ces fermetures sont jugées absurdes et même inadmissibles pour le syndicat Sud PTT en Gironde, cité par France Bleu Gironde. Et ces fermetures, rappelons-le, elles se font au profit de la création de bureaux gérés par les mairies, des agences communales et de points relais chez les commerçants. Direction Bègles maintenant, où ça fait plusieurs mois que des parents d'élèves et des personnels des collèges et écoles s'organisent contre le projet dit de choc des savoirs voulu par Gabriel Attal et en particulier contre les classes de niveau. Aujourd'hui, ces parents d'élèves appellent à une journée collège mort et le personnel de l'éducation nationale appelle lui à la grève. Un pique-nique est prévu à 13h dans le parc Langevin, à Bègles donc, avec la présence d'élus dont le député Loïc Prudhomme. Une manifestation partira ensuite à 14h du collège Berthelot en direction des différentes écoles de la commune et jusqu'au collège Pablo Neruda. Et puis Bègles, toujours, c'est la fête de la morue ce week-end avec l'Irlande qui est mise à l'honneur. Il y aura donc de la cornemuse et des bombardes au programme. La parade inaugurale depuis la rue Léon Gambetta partira demain, vendredi, à 18h30. Puis des spectacles, des concerts se succéderont tout le week-end, ainsi que des stands tenus par les associations de la commune. Ça se passe un peu partout à Bègles, place du Bicentenaire, parc de la mairie, parc de la maison municipale et parc des sécheries, notamment de demain vendredi, donc jusqu'à dimanche. Midi 13 sur la Clé des Ondes. Alors les élections européennes, c'est le 9 juin prochain. C'est traditionnellement ces élections quelque chose qui passionne assez peu, qui arrive en plus cette année au milieu d'une actualité bien riche. On va essayer tout de même sur notre antenne de mettre en avant les enjeux de cette élection et les positions des différentes listes de gauche, même s'il y en a beaucoup, une quinzaine environ au total. Aujourd'hui, on va entendre deux candidats-candidates. Flora Ghebali sera avec nous en deuxième partie d'émission. Elle est sur la liste des écologistes menée par Marie Toussaint. Et pour commencer, on va écouter Damien Carême. Il est ancien maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe, dans le Nord, où il s'était fait connaître pour sa politique d'accueil des migrants. Il a déjà été élu eurodéputé en 2019 sur la liste écologiste. Il a siégé avec le groupe des Verts au Parlement européen, l'Alliance libre européenne. Mais cette fois, cette année, il a rejoint la France insoumise et la liste conduite par Manon Aubry. On écoute cette interview enregistrée la semaine dernière lors de son passage à Bordeaux. Et pour commencer, on lui a demandé de nous expliquer le fonctionnement du Parlement européen.
L'Europe, c'est trois institutions. le Parlement européen, qui est la seule institution démocratique, puisque élue par les citoyennes et citoyens européens. Il y a le Conseil de l'Europe, c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est le rassemblement des chefs d'État, des 27 États membres, où, quand ils parlent de problèmes économiques, c'est les 27 ministres de l'économie, quand ils parlent des problèmes migratoires, c'est les 27 ministres de l'Intérieur, etc. Et il y a une troisième, c'est la Commission européenne, qui est composée de 27 commissaires qui sont désignés chaque pays désigne un commissaire. Donc en fait, dans cette Commission européenne, on a des commissaires socialistes parce que espagnols, parce que allemands, par exemple, et puis on a des commissaires très à droite de l'Italie ou de la Suède. Voilà, donc c'est une composition comme ça. Si on prend le parallèle, allez, on va dire que on pourrait dire qu'il y a le Parlement européen, ça équivaut au Parlement en France, que le Conseil, c'est le Sénat, et la Commission européenne, c'est le Conseil des ministres. On va schématiser comme ça. Il y a beaucoup de différences, par contre, entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale. On n'a pas, par exemple, nous, la capacité de proposer des textes de loi. On n'a pas l'initiative législative. On attend que la Commission nous propose des textes et on travaille sur ces textes-là. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Ça nous manque énormément, d'ailleurs. Alors, quand on sait que la Commission va nous présenter un texte, sur, par exemple, le pacte asile-migration, comme c'était le cas au début du mandat, on savait qu'ils allaient nous proposer une série de textes dessus. Nous, le Parlement, du coup, on s'auto-saisit du sujet et on fait ce qu'on appelle un rapport d'initiative, c'est-à-dire qu'on envoie des signaux à la Commission en disant « voilà la position du Parlement européen sur cette question-là ». Tenez-en compte dans le texte que vous allez nous proposer. En fait, ils s'assiedent dessus régulièrement. Donc, ils nous proposent un texte et après, on travaille. Il y a un membre par groupe politique qui est désigné par son groupe politique pour négocier sur le texte. Ça aussi, j'y reviendrai après. Et ce même texte qui est délivré par la Commission, il est envoyé aussi au Conseil. Et les ministres de l'Intérieur sur le pacte asile-migration se sont rassemblés longtemps, beaucoup discuté, pour faire leur propre texte. Donc le Parlement a adopté son texte sur la proposition. La Commission l'a proposé, on l'a amendé, on l'a retravaillé, on a adopté notre texte au Parlement. Le Conseil adopte son texte. Et après, on fait ce qu'on appelle à la fin un trilogue. C'est-à-dire qu'on se met dans une salle, la Commission, le Conseil et le Parlement, et on négocie pour se mettre d'accord sur un texte. C'est une codécision. Il faut que, comme en France, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être d'accord, nous, le Parlement et le Conseil, doivent voter sur le même texte. Voilà comment ça marche, l'Union européenne. La chose un peu particulière aussi au Parlement européen, c'est que quand on élit ici des députés européens pour aller siéger, ils siègent dans des groupes politiques. Et ça, ça a une importance crucial, parce que les groupes politiques européens, c'est pas forcément la même sensibilité que les députés français de la même sensibilité politique. On va prendre deux exemples. Si je reprends les socialistes français, par exemple, ils appartiennent au groupe des sociaux-démocrates européens. Les députés français socialistes n'ont pas voté le pacte asile-migration, mais le groupe des sociaux-démocrates européens l'a adopté, le pacte migration. D'ailleurs, s'ils ne l'avaient pas adopté, s'ils n'avaient pas voté pour, le texte n'aurait pas été adopté par le Parlement européen. Donc ça, c'est important. Autre exemple.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces différences-là entre la sensibilité des députés du pays d'où ils viennent, du parti d'origine et du parti européen? Est-ce que c'est des consignes de vote comme on a en France? Ben voilà, une consigne de vote qui va... Alors c'est peut-être un peu moins respecté maintenant qu'il y a quelques années, mais qui s'applique à l'ensemble des députés d'un groupe. C'est pareil au niveau européen. Il faut que tous les députés de tel groupe votent ce qui a été décidé par la majorité des députés du groupe.
Il peut y avoir une certaine latitude laissée aux députés du même groupe parce qu'il y a des sensibilités qui peuvent s'exprimer sur des textes aussi fondamentaux que ça, que par exemple les textes asile-migration qui est adopté, le pacte. Moi, j'ai trouvé ça quand même bizarre que ce groupe, qui est quand même un groupe de gauche, les sociaux-démocrates européens, adopte ce pacte. Comme le pacte d'austérité budgétaire, qui va avoir des conséquences dramatiques parce que ça va priver les États européens d'une part de budget importante, parce qu'on va devoir revenir à la règle des 3% de déficit public, ça va entraîner beaucoup de sacrifices sur les services publics, notamment en France. Donc les députés socialistes français ne l'ont pas adopté, mais les socialistes, le groupe des sociaux-démocrates européens l'a adopté, parce que dedans aussi, les sociaux-démocrates, ils sont au gouvernement en Espagne, ils sont au gouvernement en Allemagne, et donc ils envoient des signaux à leurs eurodéputés. Et là, c'est quelque chose que les anciens eurodéputés nous disent, c'est qu'il y a beaucoup plus maintenant d'intervention des gouvernements sur leurs eurodéputés, alors qu'avant, les eurodéputés bénéficiaient d'une forme de... Ils ont une autre vision quand même de l'Europe, qui n'est pas forcément la représentation de son pays. C'est vraiment une vision européenne. Et là, il y a une grosse différence sur ce dernier mandat. Il y a eu beaucoup de changements. Donc c'est pour ça qu'on a vu des grosses différences dans les votes.
Alors, on reviendra peut-être sur certains de ces éléments-là, mais je disais, qu'est-ce que ça permet comme avancée ? Est-ce que là, dans ces 5 années, vous avez souvenir de victoires, de trucs où vous avez dit, ben voilà, ça, c'est une avancée qu'on a grâce au Parlement européen ?
Ouais, il y en a beaucoup. Moi, je pense que l'Europe est très utile aujourd'hui. On l'a vu sur la crise du Covid, par exemple, hein, le fait que l'Europe se mobilise et permette aux États membres de financer la crise qu'il y a eu et de permettre à tout un chacun de rester chez soi, d'être confiné, mais de continuer, que l'économie ne s'écroule pas. S'il n'y avait pas eu l'Europe, ça n'aurait pas été possible. Ça a été un exemple très, très marquant ces derniers temps. Le poids aussi que ça peut représenter dans le conflit entre l'Ukraine et l'URSS, le fait que cette puissance sens-là soutiennent l'Ukraine derrière, ça a un poids dans la négociation. Et puis il y a d'autres victoires qui sont peut-être qui ont moins fait la une de la presse, mais par exemple la directive de protection des travailleurs des plateformes numériques. La France n'en voulait pas. Emmanuel Macron a beaucoup œuvré pour ne pas que cette directive voie le jour, et elle a vu le jour au Parlement européen. Donc maintenant les travailleurs des plateformes numériques, Deliveroo, Uber, etc., cotiseront pour une cotisation sociale, la retraite, la maladie et leur voilà. Donc ça c'était une avancée qui était importante. Le devoir de vigilance des entreprises aussi, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Je pense que c'est une avancée aussi qu'on a adoptée là les derniers mois. La directive sur l'isolation thermique des logements aussi. On voyait en France, quand on a dû faire des restrictions budgétaires, on a retiré 1 milliard sur la prime rénov. Et c'est malheureux parce que les émissions liées aux bâtiments, c'est quand même 40% des émissions en Europe qui viennent des logements et des bâtiments, et qu'il faut mettre beaucoup d'argent pour isoler les bâtiments. C'est bon aussi pour la facture énergétique des locataires ou de ceux qui habitent à l'intérieur. Donc voilà, ça, ce sont des avancées extrêmement importantes, je pense, que l'Europe permet. Que si on essaie, par exemple, si je reprends l'exemple français, on n'aurait pas eu ces avancées-là s'il n'y avait pas eu l'Europe. Voilà, c'est quelques exemples des derniers mois qu'on a négociés. Il y a eu, moi, un texte que j'ai négocié dans deux commissions, commission économique et commission industrie, sur ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire cette taxe carbone aux frontières, où on va taxer maintenant les produits en fonction, qui vont arriver en Europe, en fonction des émissions de CO2 dans leur process de fabrication. Ça, c'était fait pour protéger notre industrie et les emplois. L'industrie à qui on demande de faire des efforts sur le plan environnemental, ces efforts aujourd'hui seront protégés parce que ils vont devoir faire des investissements, ça va alourdir le coût de production de leurs produits en fait. Et avec ce mécanisme-là, on les protège et on permet aussi de défendre la planète. Et c'est une forme de protectionnisme intelligent, c'est pas qu'on se recroqueville entre nous, c'est qu'on dit aux autres, si vous voulez commercer avec l'Union européenne, qui est quand même le premier secteur commercial au monde, si vous voulez commercer avec l'Europe, produisez vos produits avec les mêmes conditions environnementales que nos propres entreprises.
Qu'est-ce qui a permis des votes sur ces textes-là ? Parce qu'on sait que globalement, sur les députés qui siègent au Parlement européen, c'est une majorité quand même de droite. Qu'est-ce qui a permis que, du coup, ces textes-là, ils soient quand même votés ? Alors que j'imagine qu'ils ne devaient pas beaucoup leur plaire au départ ou plaire aux lignes politiques qu'ils représentent.
C'est toute la magie du Parlement européen. Alors, c'est pas qu'une majorité de droite. Aujourd'hui, pendant longtemps, au Parlement européen, jusqu'au dernier mandat, là, jusqu'à avant 2019, c'était le PPE, le Parti populaire européen dans lequel siège les Républicains français, et les sociodémocrates qui faisaient les textes à deux. Ils avaient la majorité, ces deux groupes-là. C'est plus vrai depuis le mandat de 2019. Il faut trois groupes politiques. Donc, c'est le PPE, toujours, c'est Renew Europe, dans lequel siègent les macronistes français, et c'est les sociodémocrates. Voilà, ces trois groupes-là. Et puis, il y a des groupes politiques qui sont là derrière et qui poussent pour avoir des avancées dans un certain nombre de domaines. Et je pense qu'à un moment, même si ils veulent fermer les yeux, ils sont rattrapés aussi par les citoyennes et les citoyens qui demandent. Et puis la réalité de la lutte contre le changement climatique, donc l'isolation thermique des bâtiments, voilà, ça arrive aussi par ce biais-là. Et aussi des pressions qu'il peut y avoir par la société civile, comme par exemple la protection des travailleurs des plateformes numériques. C'est grâce à l'intervention de milliers de travailleurs des plateformes numériques auprès des parlementaires européen que ce texte a vu le jour, parce que ça joue beaucoup la pression des citoyennes et des citoyens. Donc voilà, pour chaque texte, en fait, il faut aller chercher des majorités au Parlement européen, comme un peu on l'a en France aujourd'hui, puisque le seul groupe du parti présidentiel n'est pas majoritaire. Il pourrait faire des alliances et avec la droite ou avec la gauche. C'est le choix après idéologique qui détermine le choix qui sera fait. Mais voilà, au Parlement européen, on y arrive.
Ça veut dire qu'il y a un certain degré de démocratie, de démocratisme qui fonctionne à niveau européen, dans le Parlement.
Ah, au Parlement, oui. Oui. Puis c'est, on a l'habitude de construire ces majorités-là, d'aller faire des compromis sur les textes. Alors, il y a des fois des textes qui passent, comme ceux dont je vous ai dit sur la taxe carbone, qui est en dessous de ce que mon groupe, moi, on espérait au départ. Mais quand même, on a quelque chose à la fin. Il y a par exemple une autre loi qui a beaucoup subi de restrictions. On avait adopté la loi sur la restauration de la nature, et finalement elle est revenue à la fin du mandat, et elle a été quand même bien dénaturée par les groupes effectivement du Parlement, les groupes de droite et les centristes du Parlement européen.
Alors pour terminer quand même un peu sur cette campagne et sur la bagarre entre partis qui se joue dans ces européennes, vous étiez donc élu avec les Verts, vous êtes cette fois-ci candidat sur la liste France Insoumise au niveau français, donc France Insoumise, député France Insoumise qui siège dans le groupe GUE au niveau européen.
The Left. Ça a changé, c'est The Left.
The Left. Vous avez dit dans une interview à Mediapart que les Verts au niveau européen votaient des textes trop libéraux et qu'il y avait quelque chose qui déviait chez les Verts européens vers plus de libéralisme et moins d'écologie, c'est ça? Peut-être expliquer ce choix et pourquoi aller vers la France insoumise.
Ah ben non, clairement, aujourd'hui, il y a une grande partie du groupe des Verts européens qui ont voté l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et pour moi, c'est un changement complet de logiciel. Des Verts européens votent sur le nucléaire aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, on change complètement le paradigme. Et en plus, cerise sur le gâteau qui vient me conforter dans mon choix-là, il y a une déclaration de la présidente, de la coprésidente du groupe des Verts européens, peu de temps, là, il y a quelques semaines maintenant, à un magazine européen qui dit qu'elle est prête à gouverner avec la droite au Parlement européen. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. On peut faire des compromis quand on travaille des textes. On ne peut pas participer à cette co-gestion de cette Europe-là. On va avaler trop de couleuvres. Moi, je vois ce que les Verts allemands avalent comme couleuvres dans une majorité avec les sociaux-démocrates et avec les libéraux du type macroniste en Allemagne. Sur le pacte d'immigration, ils l'ont adopté, l'Allemagne. Ils ont demandé à leurs députés de le voter. Ils ont fait une pression énorme sur leurs députés pour le voter. C'est pas possible. Sur le pacte d'austérité budgétaire, les Verts européens en font partie. Moi, c'est pas possible. Enfin, les Verts allemands l'ont adopté, et pour moi, ce n'est pas possible, parce que ça va retirer des services publics, et on dévie de cette position à gauche à laquelle moi, je suis plus qu'attaché.
Dernière question, pour l'instant, dans les intentions de vote, dans les sondages, les personnes qui se disent proches d'un parti et qui ont le moins l'intention d'aller voter, ce sont les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui se sentent proches de la France insoumise. Comment vous comprenez ça, et comment inverser cette tendance ?
Ah bah, c'est ce qu'on fait depuis le début de la campagne, c'est d'essayer d'aller les chercher et de les convaincre, parce que s'il y avait le même nombre d'électeurs qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle en 2022 qui votaient là, on serait à 20%. Donc effectivement, il faut les convaincre. Il faut les convaincre d'aller voter. Enfin, il y a aussi toute une raison, les médias ne font pas la publicité de l'Europe, ils ne nous en parlent pas assez souvent. On voit bien, nous, les députés européens, combien on a du mal à accéder aux médias pour expliquer un certain nombre de choses dans le courant de l'année. Il n'y a qu'au moment des élections européennes que les micros s'ouvrent et que les plateaux télé s'ouvrent. En dehors de ça, c'est extrêmement difficile. Donc on fait de cette Europe quelque chose d'assez lointain, mais il faut bien que tout le monde se rende compte que ce qui est adopté au niveau européen, ça a des conséquences au quotidien, dans le quotidien, chez les habitants et les habitantes. Si on prend la libéralisation du marché de l'énergie, le fait qu'aujourd'hui le tarif régulé va tomber à cause de l'Europe, ça va avoir des répercussions sur les factures de tous les citoyennes et de tous les citoyens français. Et vraiment, c'est ça qu'il faut qu'on explique, il faut qu'on fasse cette pédagogie-là. Et quand on le fait, j'étais hier à Villeurbanne et j'ai fait du porte-à-porte et quand on l'explique aux gens, pour eux, ça veut dire qu'il y a un intérêt à aller voter. Et voilà, il faut leur expliquer, continuer à leur expliquer. Il reste 3 semaines pour ça, on va y aller. Mais je ne me fie pas trop au sondage. Moi.
Merci Damien Carême.
Merci à vous.
Voilà, il reste plus de 3 semaines, il reste 10 jours maintenant avant le 9 juin et le jour de vote pour élire les députés européens. Cette interview, elle a été enregistrée la semaine dernière lors du passage de Damien Carême à Bordeaux. Je rappelle qu'il est donc candidat sur la liste de la France insoumise conduite par Manon Aubry. On accueille maintenant notre deuxième invité du jour. Bonjour Flora Gebali.
Bonjour.
Alors, vous êtes présenté comme entrepreneur, avec un E, essayiste, conférencière. Vous avez travaillé à la communication de l'Élysée, de la présidence de la République de 2016 à 2018. Vous avez fondé en 2020 les Coalitions, qui est une agence de conseil aux entreprises sur les transitions écologiques et sociales. Vous avez aussi publié un livre, Le syndrome de la fourmi, et lancé un mouvement du même nom. Et vous êtes donc candidate aux européennes sur la liste des écologistes conduite par Marie Toussaint. J'ai pas fait de faute.
Si, sur mon départ de l'Élysée, c'était avant ça, mais c'est pas, c'est un détail. En tout cas, c'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron pour donner un référentiel.
Très bien. Et vous êtes aussi chroniqueuse sur RMC dans Les Grandes Gueules. Peut-être pour commencer, essayer de comprendre un peu votre engagement, je voudrais revenir sur cette image de la fourmi que vous utilisez. Le syndrome de la fourmi, ce serait quoi, se croire tout petit face à des enjeux énormes et donc penser qu'on pourra jamais changer le monde ?
Ça marche aussi, mais c'est pas ça l'image que j'ai voulu utiliser au démarrage. Moi, dans mon action professionnelle, politique et militante, j'observais que, en fait, on fait des constats qui sont assez clairs. Pour vous donner un exemple d'actualité, il y a un chercheur qui s'appelle Simon Porcher qui a publié un livre qui s'appelle « La fin de l'eau ?» point d'interrogation. Donc, il s'interroge sur la fin de l'eau. Ça devrait nous faire un uppercut collectif de nous dire comment ça, la fin de l'eau, c'est la fin de la vie. On a tous appris ça à l'école primaire. Et pourtant, on reste bloqué dans nos croyances qui sont des croyances que moins on bouge, mieux on se porte. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça le syndrome de la fourmi, c'est moins on bouge, mieux on se porte. L'immobilisme. Et en fait, j'ai trouvé ça, c'est assez rigolo parce que ça en dit long sur ma déconnexion à la nature d'enfants urbains. C'est que j'ai trouvé ça sur YouTube, une vidéo d'une fourmi qui est enfermée dans un cercle dessiné au stylo. Et qui pensent que ce cercle est un mur, une barrière. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait, nous, nos barrières mentales, elles sont beaucoup plus fortes que des barrières même physiques. Comment on dépasse les barrières mentales qui nous empêchent de sortir de l'immobilisme, qui nous empêchent de bouger, de changer. Et notamment, parce que pour moi, l'écologie est un problème éminemment économique, les barrières économiques qui sont le libéralisme, le capitalisme, et comment toutes ces règles assez finalement invisibles régissent notre quotidien et on a du mal à en sortir.
Donc ça veut dire qu'il y a deux choses, il y a à la fois les barrières mentales qu'on peut avoir à l'échelle individuelle et des barrières plus globales, systémiques à l'échelle notamment économique, c'est ça ?
Les barrières individuelles, c'est pas trop mon sujet, et d'ailleurs l'écologie individuelle, moi je trouve que c'est un peu injuste de culpabiliser les gens sur le temps de leur douche ou leur déplacement.
C'est ça parce que l'image de la fourmi aurait pu laisser penser voilà, à l'échelle d'une fourmi, d'un individu, mais...
Moi, c'est, ce qui m'intéressait, c'est vraiment les murs et les barrières collectives, quoi. C'est vraiment de dire le capitalisme... Enfin, par exemple, moi, une fois, j'ai dit mon premier plateau à la télévision, j'ai dit le monde économique est en guerre contre le vivant. Et c'est une phrase qui appartient à Naomi Klein, que j'avais lue dans un essai qu'elle a publié en 2014.
Une essayiste canadienne qui, comment tout peut changer.
Américaine et canadienne, et qui a beaucoup écrit justement sur l'écologie, qui est une référence assez unanime sur la question. Donc moi, en disant cette phrase, j'avais pas l'impression d'être spécialement transgressive. Et le plateau a bondi comme un seul homme, comme si j'avais dit quelque chose d'extrêmement dérangeant, extrêmement gênant. Or, on a un modèle économique qui est extractiviste et qui détruit les ressources et aujourd'hui on a dépassé 6 des 9 limites planétaires, donc pour moi c'était juste factuel de dire ça, et pourtant ça fait bondir parce que en fait il y a des états de fait auxquels il ne faut pas toucher, ou alors tout le monde est en panique.
Et justement, vous parlez beaucoup de cette bataille culturelle où on nous dit non, ça c'est pas possible, et de comment gagner cette bataille culturelle. Ça fait partie des raisons qui vous ont amené à faire de la politique. Comment vous voyez, alors vous allez me rectifier, c'est pas le cas, et comment vous voyez cette bataille culturelle et comment on peut la gagner, comment les écologistes peuvent la gagner ?
Alors la bataille culturelle, elle est fondamentale parce qu'à un moment, il va falloir que l'écologie politique fasse 51% de l'électorat si on veut pouvoir accéder au pouvoir et transformer les choses. Aujourd'hui, il y a un think tank qui montre qu'il y aurait 17 millions d'écolos qui s'ignorent dans le pays, qui sont en fait assez friands de ce discours-là, mais qui ont peut-être des soucis avec la forme, avec la façon dont leur est présenté les choses. Donc pour moi, l'écologie culturelle, elle est fondamentale là-dessus. Et d'ailleurs, elle dépasse vraiment l'écologie politique, dans le sens où c'est ne serait-ce que regarder, je sais pas, un film magnifique sur la nature et se rappeler que, ne pas voir la nature de toute une journée, c'est pas quelque chose qui participe au bien-être et à l'émancipation individuelle. Par exemple, en fait, il y a beaucoup de choses, ou alors montrer que travailler moins, ça permet permet d'avoir une vie associative riche, d'avoir une vie sportive riche ou associative et sportive. Il y a plus de 10 millions de Français qui sont investis dans les clubs de sport locaux. Bah, en fait, ça, on en a un peu parlé pendant la réforme des retraites. Dire aux gens, vous aurez plus de temps pour vous occuper de ça, vous occuper du lien social, c'est de l'écologie politique pour moi. Donc l'écologie culturelle, elle est beaucoup plus vaste que l'écologie politique. Après, elles sont forcément complémentaires parce qu'à un moment, moi, j'ai beaucoup agi dans l'écologie culturelle et je continuerai toujours de le faire. Mais à un moment, on a besoin de la fabrique de la loi, on a besoin d'être dans les institutions. Et donc, moi, j'ai décidé de relever le défi de cette candidature avec cette envie de passer de l'outsider à l'insider. C'est-à-dire, l'outsider, c'est une position politique très importante parce que c'est de pointer du doigt ce qui est défaillant, c'est de pointer du doigt un système qui tourne pas rond. Par contre, pour moi, l'insider, il est tout aussi important parce qu'il va aller dans la fabrique de la loi, il va aller mettre les mains dans le cambouis. Et vous avez entendu Damien Carême vous présenter le fonctionnement des institutions européennes. C'est sacrément compliqué et ça, enfin, moi, j'échange beaucoup avec Marie Toussaint, notre tête de liste, ou avec David Cormon ou les eurodéputés écologistes. Quand on voit le travail d'orfèvre qu'ils font au Parlement européen, c'est aussi un engagement politique qui me paraît noble et tellement fondamental.
Et alors, justement, qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, ce gap, cet espace faussé qu'il peut y avoir entre ce que vous appelez l'écologie culturelle et l'écologie politique, et comment le combler ? Peut-être un élément de réponse, alors qui vaut pour vous comme pour l'ensemble des listes des partis politiques, sans doute. C'est dans un article sur Mediapart, il y avait une revue un peu des candidatures, des premières candidatures sur chacune des listes à gauche, et qui disait, alors qui notait que chez les écolos, c'est la liste avec les 15 premiers candidats et candidates qui ont la moyenne d'âge la plus jeune de la gauche, mais que globalement ces listes sont emblématiques du fait que la gauche a entériné l'idée que la politique est un métier, que les partis sont des lieux de carrière où l'on consacre des trajectoires de purs professionnels de la politique. Est-ce que ça explique une part du fossé qui peut y avoir entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe en politique ? Flora Gabelli.
Je pense que vous avez raison et que la politique a extrêmement mauvaise réputation. Et moi, si je m'y engage, c'est aussi pour essayer d'aider à ce niveau-là, parce que je pense qu'il faut rendre sa noblesse à la politique. Quand je vous dis que les députés européens font un travail colossal, c'est aussi pour vous dire que c'est un métier c'est important et on a besoin d'eux. Il faut respecter cette profession. Et c'est vrai qu'à titre totalement personnel, quand je me suis engagée, là, c'est tout récent, ça date du mois de mars, j'avais l'impression de faire un espèce de coming out, et quand je disais aux gens, maintenant je fais de la politique, les gens me regardaient, presque avec un mouvement de recul physique, ah ouais, waouh, ça fait peur. Et en fait, non, la politique, ça fait pas peur. Et si, pour moi, il y a une crise qui est pire que la crise écologique, c'est vraiment la crise démocratique et la crise politique qu'on traverse. C'est de savoir que les jeunes, ils votent déjà à 35% pour le Rassemblement National aujourd'hui, et globalement...
Qui votent, en tout cas.
Pour ceux qui votent, et surtout pour l'abstention en priorité, puisqu'il y a 8 jeunes sur 10 qui n'ont pas voté en 2019, et il y a 80%, enfin donc 8, plus de 60 ans sur 10, qui ont voté. Donc aujourd'hui, toute la question, c'est pourquoi c'est les plus de 60 ans qui façonnent la vie politique pour les jeunes. Et c'est vrai, la politique, c'est difficile. Les institutions européennes, n'en parlons pas, c'est extrêmement technique et extrêmement complexe. Mais à un moment, si on n'est pas capable de s'éduquer collectivement sur la fabrique de notre destin, on va être un peu embêté, et surtout, on laisse la main à ceux qui savent, ou alors ceux qui prétendent savoir. Parce que le pire dans tout ça, c'est que moi, je croise plein de jeunes sur le terrain, tout le temps. Tous les jours en ce moment, on est en campagne, on n'arrête pas. Et il y en a plusieurs, vraiment beaucoup, qui me disent oh, « Mais moi, je crois que je ne vais pas aller voter parce que je ne me sens pas légitime, je n'ai pas suffisamment lu les programmes. » Et je leur dis « Mais attends, je vous rassure, il y a plein de gens qui ne lisent pas les programmes et qui vont voter. Donc, vous sentez-vous légitime, en fait. Les jeunes doivent se sentir légitimes. » Et moi, je vois deux solutions à ça. La première, c'est l'abaissement du vote à 16 ans, pour leur montrer que oui, on leur fait confiance, et oui, dès 16 ans, ils peuvent y aller. La deuxième, et ça, c'est juste ma posture personnelle, parce que je ne sais pas si c'est dans le parti, c'est un moment de se questionner sur rendre le vote obligatoire. Parce que, aujourd'hui, il l'est dans plein d'autres pays. J'ai croisé un Belge sur le terrain. Il m'a dit « Ah bah moi, je veux voter, ça m'ennuie de payer 100 euros. Je crois que c'est 100 euros l'amende en Belgique. » Bah voilà, en fait, à un moment aussi, je sais pas comment on peut responsabiliser les gens et leur dire de prendre leur destin en main. J'aimerais que le vote reste un droit. Mais si à un moment, il faut responsabiliser les gens et leur dire « vous êtes en charge. »
Alors, vous vous dites aussi entrepreneur, j'ai dit tout à l'heure, entrepreneur avec un E à la fin, vous conseillez des entreprises avec coalition. À gauche, en général, ce monde-là de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, il est souvent critiqué parce qu'il viendrait s'opposer peut-être à la décision collective, démocratique, à la régulation. Est-ce que ça veut dire que vous croyez dans ce pouvoir de transformation des entreprises, plus peut-être que dans celui de la collectivité parfois, ou pas ?
Alors, certainement pas. Je pense que les entreprises doivent être soumises à la décision publique et dépendante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je m'engage en politique parce que j'observe que les entreprises, qu'elles soient volontaires, pas volontaires, françaises, européennes, grandes, petites, elles sont toutes besoin, elles ont besoin de lois, elles ont besoin d'un cap, elles ont besoin d'une direction. Et ça, c'est le politique qui doit leur donner. Ceci dit, mon engagement économique, enfin dans les mondes économiques, c'est deux choses. C'est d'abord une vraie envie de comprendre, parce que je crois que quand j'ai cité Naomi Klein, quand on lit Naomi Klein notamment, et même beaucoup de littérature sur la question, on découvre que le problème écologique est